Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Clap Cinéma avec Jean-Sylvain Minissen au sémaphore. Bonjour Jean-Sylvain.
Bonjour Sylviane.
Alors voilà, le soleil est revenu, c'est l'été, c'est l'été. Donc moins de monde au cinéma, non, non.
Oui, non. Bah après, ça, c'est beaucoup les films qui font la différence.
Bien sûr, donc on va, vous êtes là pour en parler, et il y a beaucoup de choses. Alors c'est le nouveau programme hein, du 5 juin au 2 juillet, ça prouve que même l'été. Et nous allons parler des films, les sorties du 5 juin et du 12 juin, mais nous allons parler aussi de beaucoup d'autres choses, puisque je vois qu'il y a la quinzaine en salle, Cannes 24. Bon, et puis les auditeurs découvriront au fur et à mesure. Voilà. Alors, les sorties du 5 juin. Vous en avez vu 3 sur les 5. Mmh. On commence par le manga, tiens.
Commençons par le manga. Alors, c'est. Maintenant, les spectateurs et les spectatrices françaises sont bien au courant qu'il y a énormément de mangas qui sortent. C'est les livres qui se vendent le plus en France au niveau de la jeunesse. Ah, donc, oui. Le cinéma y est sensible. C'est un film donc, d'animation, même si ce n'est pas tout à fait un film comme un Walt Disney. L'avantage du numérique permet qu'on ait deux versions du film, en version française pour les petits et en VO pour les fans de manga. Le film s'appelle Tunnel to Summer, donc c'est le tunnel vers l'été, si on veut le traduire mot à mot. Et c'est un film qui se passe énormément dans la nature. C'est souvent un petit peu le cas, deux personnages, un personnage féminin, un personnage masculin, qui sont un peu des enfants, hein, des adolescents, qui sont un peu en dehors des clous traditionnels et qui finissent par se retrouver devant une porte d'entrée magique vers un monde qui est à la fois l'au-delà et en même temps ils gagnent leur vie. Alors, par exemple, quand il reste, je sais pas, 19 secondes dans le tunnel, ça fait 20 ans de leur vie, enfin voilà, donc il y a tout un concours de circonstances comme ça.
C'est l'histoire pour ça que les ados vont aussi adorer.
C'est vrai que ça va être, c'est pas pour les petits, hein, si vous avez un enfant de 5 ans, c'est pas pour lui, donc c'est vraiment à partir de l'adolescent. Voilà, mais c'est un film qui m'a plu, c'est très très bien dessiné, si vous voulez, c'est pas les mangas un peu rapides, un peu speed, tout ça, donc voilà, ça prend son temps, c'est en couleur. Une petite histoire, alors bien évidemment les deux personnages tombent amoureux parce que c'est voilà,
c'est pas le dire.
mais c'est beau, donc voilà, un très 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 bon
vous le recommandez, ouais. et dure 1h24, hein, donc c'est un bon format. Et puis vous avez vu aussi l'affaire Vinka Curry, Dragan Bjeloklik, c'est yougoslave, non, c'est serbe.
Oui, alors la Yougoslavie n'existe plus, chère Sylviane.
C'est serbe et slovène.
Et slovène, mais c'est une histoire qui se passe à Belgrade à la fin des années 50, début des années 60, que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. C'est l'histoire de la Yougoslavie qui s'amuse à trafiquer avec la bombe nucléaire comme beaucoup de pays à cette période là et il y a un accident sur un réacteur nucléaire test à Belgrade, et Belgrade et la France étant amis, il y a un groupe de 5 scientifiques yougoslaves, parce qu'on les appelle comme ça, qu'ils étaient yougoslaves à l'époque, qui vient se faire soigner dans un hôpital qu'on ferme et qu'on les accueille à bras ouverts, avec un petit peu quand même de la surveillance, parce qu'on se doute bien qu'ils n'ont pas fait, ils sont pas irradiés comme ils le sont avec par l'opération du Saint-Esprit.
Ils sont traités à l'Institut Curie.
À l'Institut Curie, c'est assez classique comme découlement de film. Voilà, c'est pas génial, mais pour bah, ceux qui aiment bien problème. L'Europe et cette période-là, ça peut intéresser.
Il y a les élections hein, ce week-end. Enfin, donc, oui. Un seul tour, il faut aller voter. Allez, faisons notre seconde citoyenne.
D'ailleurs, à ce propos-là, on a eu hier une réunion avec la salle des profs et voilà, j'espère que ça a déclenché des votes parmi les gens qui étaient dans la salle.
Eh bien, j'espère aussi. Alors ensuite, vous avez vu la petite vadrouille, alors qui dure jusqu'au 2 juillet. Je pense que quand on voit les noms, on va tout de suite penser que ça va avoir du succès, parce que Bruno Podalydès, bon, on connaît son style. Et là, il a Daniel Auteuil et Sandrine Kimberlin. Je pense que ces deux-là ont aussi un aspect très comédique.
Voilà, très comédique, qui sied bien à l'été. Alors c'est un peu un rendez-vous quasiment annuel maintenant.
Ouais.
Bruno Podalydès avec sa bande, donc qui s'enrichit avec le personnage de Daniel Auteuil. Bon, les deux frères, ça fait longtemps qu'ils tournent ensemble. Sandrine Kiberlin, c'est le troisième ou quatrième film qu'ils font ensemble. Et La Petite Vadrouille, c'est bien évidemment un clin d'œil à La Grande Vadrouille.
Bah, bien sûr.
Et c'est l'histoire de gens qui se doivent mutuellement de l'argent, donc qui montent une espèce de combine pour faire payer un riche qui veut séduire sa secrétaire de direction. Et ils organisent donc une vadrouille petite sur les canaux dans le Marais Poitevin, je crois que c'est tourné. Donc voilà, donc c'est une succession de comédies, de scénettes plus drôles les unes que les autres. Alors vous voyez bien, donc il y a l'histoire avec le remplissage des écluses, que ça ne prend pas son temps, les gens qui tombent.
Oui, en fait, il n'y a pas un scénario, enfin, il n'y a pas une histoire. Quoi.
Si, enfin, l'histoire, c'est qu'ils veulent arnaquer le personnage joué par Daniel Auteuil. Alors, à chaque halte, il faut qu'il vende je ne sais pas quoi, qui est Daniel Auteuil, donc achète pour faire plaisir à Sandrine Kiberlin qui essaye de séduire. Donc, c'est une comédie absolument hilarante, délicieuse. C'est d'une beauté, on a juste envie de dire. Mais pourquoi j'y vais pas cet été prendre un bouquin et aller sur les canaux tranquillement?
Ouais, voilà. C'est très beau, c'est sûr. Et donc, on sort de là.
On sort de la guirée, voilà. On a envie d'aller prendre un petit verre, de se dire à ses amis de venir manger une salade de tomates. Donc c'est très bien pour l'été.
Et puis ça dure 1h36. C'est un format, moi je trouve, où il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de ralentissement. Tout est au bon niveau. Mais je vous propose que. En hommage à Gérard Houry, Louis de Funès, Bourville, tout le monde connaît La Grande Vadrouille, qu'on écoute la bande-annonce de La Petite Vadrouille.
Justine ?
Oui, monsieur Poyac.
Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça.
D'accord.
Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié.
Il faut que j'organise un week-end de rêve.
On va tous se refaire.
Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up.
Mais oui, mais c'est ça. C'est exactement ça.
Bonjour, Franck.
Je suis votre capitaine. Et vous dites mon capitaine.
Voilà. Voilà, c'est bien. Très bien.
Il faut rester élégant, raffiné. J'ai mon poste en jeu, donc il faut que tout soit de très, très grande qualité.
Oh, les croûtes.
La petite vache, je l'adore.
3000.
Elle a raison, faut le faire cracher.
À chaque écluse, il faut payer 50 euros.
Il la frappe ? Mais c'est qui ce type ?
Quoi ?
Non, mais ça va. Hein.
Enfin, tu commences à m'emmerder, là, avec ta jalousie à la con.
Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe.
Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein.
Je me demande comment ils peuvent croire encore à cette histoire. Là, vu que ce vin midi qui était de la super piquette.
Je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même.
Tu te déguiseras.
Chacun respecte son engagement.
C'est une catastrophe, hein, permets-moi de te le dire.
Mais c'est derrière tout.
Mais pourquoi vous gueulez ça, puisque c'est vous qui manœuvrez le moteur?
Alors après cette bande-annonce de La Petite Vadrouille, on voit les sorties du 12 juin, mais pour l'instant, vous n'en avez vu qu'un. Vous n'avez vu... Bon, je vois qu'il y a Gloria, C'est pas moi, Love, Life, Bleeding.
Quel film j'ai vu?
Alors, Juliette au printemps.
Voilà, on va parler des films d'abord que j'ai pas vu. C'est pas moi, c'est le film de Léo Scarrax. C'est un petit film par la durée de 40 minutes où il fait le point un peu sur lui-même. C'est une espèce d'autobiographie filmée. Gloria, ça se passe à Venise au XVIIIe siècle. Donc c'est l'histoire de conquête, je vais pas dire conquête, mais oui. De développement féminin à l'époque, ce qui était quand même loin d'être évident, conservatoire pour jeunes filles, orphelinat et compagnie, donc voilà, parce qu'il y a le pape qui va venir. Un film que j'ai très envie de voir, c'est le film de Rose Glass qui s'appelle Love Lies Bleeding. Mais alors, Bleeding, ça veut dire ça veut dire saigner. Avec Kristen Stewart, c'est une espèce de road movie de revanche. Il y a un style comme ça dans le cinéma américain qui s'appelle les revenge films, les films de revanche, et ça en fait partie. Donc voilà, c'est l'histoire de deux femmes qui tombent amoureuses l'une de l'autre et qui prennent des voitures et qui fuient et qui traquent des meurtriers. Donc j'ai très envie de voir ça.
Mais ce que j'aime dans cette programmation, c'est qu'on va de la petite vadrouille, donc à rire, à des films plus sérieux comme Gloria ou plus brutaux comme Love Lies Bleeding. Donc on trouve un petit peu tout ce que l'on veut. Léo Carax, moi, a priori, j'aime bien voir ce qu'il fait. C'est toujours très, très innovant. Et donc vous avez vu Juliette au printemps.
Alors Juliette au printemps, petit bijou. De cinéma.
Il y a Daroussin, il y a Noémie Lovski.
Que des actrices et des acteurs que les spectateurs du sémaphore aiment bien voir. La réalisatrice est Blandine Lenoir. Et c'est le personnage principal est interprété par Isia Higelin, donc la fille du grand Jacques, et qui pour une fois saute pas en criant dans tous les sens et qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va pas très bien. Qui est dessinatrice et qui retourne un peu chez son papa, mais qui n'ose pas dire qu'elle va pas très bien. Donc c'est une espèce de mise au vert, mais sans vraiment dire les choses. Donc là, le film avance comme ça. Je crois que je le dis assez souvent à ce micro, par petites touches. Sa mère qui est complètement extravagante, qui est jouée par Noémie Lovski, son père qui est plutôt bienveillant, bien évidemment Daroussin. Là, c'est la grande sœur qui croit tout porter sur ses épaules alors que personne ne lui demande rien. Et elle finit par tomber amoureux en gardant un canard. Enfin, voilà. Donc, c'est à la fois très humain, très décalé. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je voudrais vraiment qu'il marche parce que c'est un bel hommage au cinéma. Il y a l'ami Eric Caravaca qui a un petit rôle aussi dans le film. Donc, voilà.
L'affiche est assez interpellante, je trouve. Hein, ce fond vert avec tous ces personnages.
Oui, ça se passe souvent à la campagne. C'est
un fantôme, là, on voit au fond.
Le film du mois pour le sémaphore.
De Blandine Lenoir. Voilà. Donc, et là, il dure, vous le projetez longtemps aussi, jusqu'au 2 juillet, jusqu'à la fin.
Ça va continuer après.
Bon, alors il y a déjà pas mal de choix. Hein, déjà pour. Alors, on se reverra là, bientôt pour les sorties du 19 et du 26 juin, mais entre-temps. Il y a la quinzaine en salle, Cannes 2024. C'est la première année où ça a lieu chaque année ?
C'est la deuxième année où la quinzaine ici, c'est la plus vieille section parallèle du Festival de Cannes, après la sélection officielle, qui depuis 2 ans a décidé de faire tourner un certain nombre de films dans les salles de cinéma, dont le Sémaphore. Et donc cette année, ça commence mercredi, aujourd'hui, donc c'est
12 films en avant-première.
Voilà, du 5 au 16. Non. Alors, je les ai pas encore tous vus.
Mais vous en avez.
Mais j'en ai vu 3, donc si vous voulez, je vais vous en
12.
Parler. Voilà. Le premier film que j'ai vu, c'est.
C'est des séances uniques à chaque fois.
C'est des séances uniques.
Il faut bien faire attention à la date de projection.
C'est jeudi 6 à 20h30. C'est un film français qui s'appelle À son image. C'est de Thierry de Peretti. Et c'est un film immense sur la Corse. Sur l'histoire d'une. C'est un film hommage à une. D'après un roman de Jérôme Ferrari, et c'est l'histoire de la Corse de la fin du XXe siècle à travers le destin d'une jeune fille qui s'appelle Antonia, qui est une jeune photographe de presse indépendante et qui côtoie par amour et par professionnalisme
les nationalistes.
Et donc ça balaye toute l'histoire du nationalisme. C'est hyper intéressant. La petite actrice Clara Maria Laredo est de tous les plans, elle est absolument formidable. Voilà, c'est vraiment un grand film à la fois de cinéma et à la fois de construction et de on apprend des choses et on comprend mieux la situation actuelle de la Corse quand on a vu ce film.
Si on en parle moins de la Corse, aucun sujet n'est vraiment résolu. Je vous propose qu'on écoute la bande-annonce, comme ça fera un peu plus de publicité à ce film, donc À son image, Thierry de Peretti, donc jeudi 6 juin 20h30.
Standing ovation quand la lumière se rallume, c'est l'épilogue de la projection officielle du film à son image à cette quinzaine des réalisateurs. Les comédiens sont en larmes, Thierry de Peretti les embrasse un par un. Parmi eux, des professionnels comme Cédric Appietto ou Antonia Bourresi, mais aussi de tout nouveaux talents qui ont crevé l'écran, à commencer par la comédienne principale, Clara Marie Laredo.
C'est un travail titanesque et franchement, je trouve ça génial pour tout le monde. Je suis trop contente pour toute l'équipe, pour ceux qu'on voit à l'écran et ceux qui sont derrière et qu'on ne voit pas, mais qui ont aussi participé à la fabrication, c'est extraordinaire.
Être tous ensemble pour le présenter, c'est des moments après qui n'existent plus avec les films. On le présente quelques fois, mais pas, c'est sûr, de cette façon-là, de manière très en communion et de manière très... c'était très émouvant.
Un peu plus tôt, dans l'effervescence cannoise, alors que les stars défilent sur le tapis rouge du palais, à quelques centaines de mètres, la collectivité de Corse donne une cérémonie en l'honneur du quatrième long métrage de Thierry de Peretti et du cinéma insulaire. Dans l'assistance, Jérôme Ferrari, le film est une adaptation de son roman, l'écrivain salue le regard du réalisateur.
L'ampleur du décalage ne me dérange pas du tout. C'est la pertinence et l'étrange parenté qu'il peut y avoir entre deux objets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre qui m'intéresse. Et je pense que là, Thierry a très bien réussi.
La cérémonie est aussi une occasion de saluer la vitalité du cinéma insulaire. Quatre films font rayonner la Corse pour cette 77e édition du Festival de Cannes.
C'est l'occasion de redire à quel point le fait que la collectivité de Corse et l'ensemble des acteurs qui sont évidemment dans cette dynamique depuis plus de 20 ans, eh bien aujourd'hui a porté ses fruits avec une filière audiovisuelle et cinématographique qui est véritablement structurée, qui est aussi un poumon économique pour le territoire avec des retombées très importantes.
Sur Radio Alliance Plus, on continue au sémaphore avec Jean-Sylvain pour nous parler donc de la quinzaine Cannes 2024. Vous nous avez parlé d'à son image, vous avez vu Ma vie, ma gueule. Alors Sophie Filière, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc vous avez été convaincue vous aussi ?
J'ai été convaincue, la séance c'est dimanche 9 juin à 18h15. Sophie Filière nous a malheureusement quitté l'année dernière. Ouais. Elle n'a pas eu le temps de finir son film, donc c'est sa fille qui l'a fini.
C'est une façon de lui rendre hommage, une grande cinéaste.
C'est un hommage interprété par Agnès Jaloui, qui joue son rôle, parce qu'elle n'était plus en état de le faire, et qui est un petit peu, si vous voulez, un constat d'une femme de 55-60 ans, un constat de vie. Et donc c'est absolument formidable, parce qu'on passe dans des émotions de l'un à l'autre. À la fois on a envie de pleurer, on rigole. Agnès Jaoui est formidable dans le film, donc c'est vraiment un des grands moments de la rentrée cinématographique. Le film va sortir au mois d'octobre, donc voilà, je vous le conseille, dimanche s'il fait pas trop beau, 18h15, Ma vie, ma gueule.
Oui, c'est ce que j'allais demander, ce sont des films qui vont sortir tous
ça va sortir. Vendredi matin je vois La prisonnière de Bordeaux. Il y a le film de Patricia Mazui avec Isabelle Huppert, donc c'est une des grandes séances de la quinzaine cette année. Il y a un autre film que je vous conseille
avec, vivement. Je vous interromps une seconde. Asia Erzi, je trouve qu'elle a fait une carrière magnifique.
Elle fait des très bons choix cinématographiques.
Et puis elle est réalisatrice elle-même. C'est vraiment une très belle carrière qu'elle a fait, cette jeune femme.
Autre film que j'ai très envie de voir, c'est Les pistolets de plastique, en plastique. C'est de Jean-Christophe Meurice, donc toute la bande à Meurice qui revient au cinéma. Ça c'est le vendredi 14 juin à 20h30. Pour les fans de manga, à nouveau, Anzu Chafantôme, un film d'animation japonais, donc qui est en vraie avant-première, puisqu'il a été présenté à Cannes, bien évidemment, mais il est également présenté au Festival d'Annecy, le Festival du film d'animation, et nous le passons le samedi 15 juin à 16h.
Eh bien, c'est très bien. Donc le fait que ce soit une séance unique, ça va motiver les gens. Il ne faut pas le rater. Alors,
et pour terminer, cerise sur le gâteau, l'ami Daniel Vidal... recevra Johannes Trueba pour son dernier film qui s'appelle Septembre sans attendre, que j'ai vu à Cannes, et qui raconte l'histoire d'un couple qui décide de faire une fête pour se séparer.
Ben oui, on fait une fête de mariage, pourquoi voilà. pas faire des fêtes
donc,
de divorce.
Donc ils appellent tous les copains, et voilà. Donc
et c'est pas triste.
C'est pas triste, non, c'est gay, ça la pêche, les deux acteurs sont formidables, c'est très bavard, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler, d'échanger, tu crois qu'on devrait faire ci, qu'on appelle ton père, que machin. Donc, mais voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment un film, alors c'est pas un grand film populaire, mais c'est un vrai film qui dit des choses sur le couple.
Et puis, cette quinzaine en salle, j'ai admiré, vous voyez, je vous demandais si c'était la première fois, mais je pense que c'est la deuxième fois, mais cette affiche est assez absolument remarquable et attire l'œil. Hein,
donc, elle attire l'œil, et c'est le cinéaste japonais Takeshi Kitano, qui est également un photographe, un graphiste, qui l'a réalisé pour la quinzaine en salle.
Ah, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si on passe la page 3 du programme, on voit qu'il y a aussi plein de choses, des séances uniques, des rendez-vous. Vous avez dit, j'ai vu à Cannes, ça s'est bien passé. Cannes, on n'en a même pas parlé.
C'est pas facile.
Vous avez eu combien de films ?
10.
10
en 2 jours et demi.
C'est pas mal, ça va. Voilà. Vous avez un bon rythme. Et puis, vous avez rencontré des professionnels, vous avez échangé.
Plein de choses.
Vous avez trouvé des réponses à vos questions sur.
Une réponse toute simple, non. C'est vrai que là, je le dis souvent, l'accès à la culture. Et on voit que les villes qui sont en pointe sur ce domaine-là ont moins de problèmes d'accès à la culture et l'utilisation du centre-ville que d'autres. Donc voilà.
Voilà.
Mais ça ne dépend pas de moi.
Bien sûr. Alors, dans les rencontres, je vois que Lydie Salvert propose son film Coup de cœur Festen avec Carte Blanche. Donc je pense que ça va attirer du monde parce que Lydie Salvert vit maintenant à Nîmes.
À Nîmes, ouais.
Et elle est un auteur très reconnu.
Elle signera d'ailleurs des livres, donc si vous avez mis des livres qu'elle voulait signer, elle sera là pour ça.
Voilà.
Et si elle présente Festen, donc de Thomas Vinterberg, magnifique film.
Pas un film des moindres.
Magnifique film danois. Ouais.
Ça sera intéressant de voir pourquoi elle a choisi. À chaque fois, l'invité dit c'est compliqué, c'est pas toujours évident de choisir un film. Elle nous dira pourquoi Festen. Alors Revivre, c'est de Karim Dridi, mardi 18 juin à 20h, en partenariat avec le CHU de Nîmes.
Alors vous passez du 6 au 18, bing, oui, comme carrément. Ça, pam, pam.
Oui, du 6 au 18, voilà. J'avais envie de faire un saut dans le temps.
Bon. Alors Revive, c'est un documentaire donc de Karim Dridi, un documentaire que l'on programme avec le CHU dans le cadre de la journée internationale ou mondiale, je crois qu'on dit, du don, et c'est un film qui est tourné dans un hôpital à Marseille, avec des familles d'enfants qui attendent des greffes et des choses comme ça. Donc il y aura trois professeurs qui viendront nous parler de toute cette problématique-là. Donc j'espère que ce sera pas trop douloureux pour des familles qui ont éventuellement des soucis.
Ça peut répondre à certaines
questions, et c'est pour ça aussi qu'on le fait.
Il y a toujours ce fait de partager un petit peu son expérience. Oui, c'est vrai que j'ai fait un bond dans le temps, parce que le 7 juin, il y a L'âge d'or au nouveau western, il y a Jeremiah Johnson, un des grands westerns de Sidney Pollack.
Il y a deux rendez-vous que je voudrais parler aussi. Le 7 juin à 20h30, c'est l'avant-dernier rendez-vous du Ciné-Club de la Contemporaine avec Divine, magnifique film de Yehuda Benyamina, présenté par Cécile Cabane, notre médiatrice culturelle préférée. Et le 7 juin à 20h30, le 22 juin, le 22 on en parlera la prochaine fois, parce que c'est le 22, et le 11 juin, un film important qui s'appelle Yalla Gaza, pour ceux que la situation en Palestine interroge, c'est un film d'une intelligence rare qui permet il y a des films comme ça, on a l'impression de sortir de sortir moins bête de la séance. Donc il y aura un débat avec les membres de l'association France-Palestine Solidarité.
Il y a beaucoup de sujets, va de l'un à l'autre, et des sujets douloureux, et c'est vrai qu'un film comme La Petite Vadrouille fait parfois du bien pour un peu
lâcher la pression,
un peu respirer. Alors moi j'ai envie de parler d'un film c'est un des grands films qui m'a marqué dans mon histoire de cinéphilie, c'est L'Armée des Ombres. Ah, ce film, moi, ça m'a... Je ne dis pas que je me souviens de chaque plan, mais ça m'avait tellement marqué.
Ah ben, oui,
et là, on est à la période du débarquement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je trouve que l'Armée des Ombres, on est tous les deux en train de chercher à quelle page c'est de votre...
Le film de Jean-Pierre Melville, d'après le roman de Joseph Kessel,
ouais.
C'est un monument du cinéma français qui parle d'histoire, qui parle bien évidemment de la situation dramatique, de l'engagement, des réseaux des Français qui dans la résistance. Et une interprétation, Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice et Jean-Pierre Cassel, on peut difficilement faire mieux. Donc c'est un film effectivement incontournable.
Il faut l'avoir vu. D'ailleurs, il a un petit sigle Cannes Classics. Hein, c'est vraiment le film à voir. Et je trouve qu'il y a une intensité. Je vous dis, c'est rare que je me souvienne de certaines scènes précises. Mais alors là, ça vous marque, ça vous... Et je pense qu'il faut rendre hommage à tous ces gens qui s'engagent. Bon, dans une guerre mondiale, mais même actuellement, il y a beaucoup de pays en guerre. Et je trouve que c'est vraiment un film. Moi, je dis, il faut avoir vu ce film.
Je suis d'accord.
On conclut sur quelque chose de plus joyeux ou on conclut sur les enfants, hein. Il y a toujours les enfants, bien sûr, au sémaphore, au moment des vacances.
Il y a un film très sympa qui s'appelle Les Aventures de Zack et Krista, qui commence aujourd'hui, et c'est un film qui a déjà, je crois que c'était à la fin des années 90, et c'était les prémices des films avec des notations très écolo dans le film, et on se rend compte que on parlait de ça dans les années 90 au cinéma, et que malheureusement ça a pas beaucoup avancé, la protection de la nature, et donc le massacre des arbres par des bûcherons qui veulent bien évidemment gagner de l'argent, et elle essaye de sauver tout ça, la petite fée magique, Zack, à côté de son copain Krista. Voilà.
Alors il faut étudier ce programme avec beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup de séances uniques, je trouve, et puis on va tout de même annoncer, maintenant tout le monde le connaît, le festival Une Salle Sous les Étoiles, du 5 au 12 juillet. Je l'annonce parce qu'on peut déjà, je crois, acheter ces billets.
Oui, les places sont en vente sur les Wasso.
Donc il y a 8 séances. Je en profite aussi de dire que Radio Alliance Plus organise chaque soir un plateau radio en direct, donc qui sera diffusé sur notre antenne, que vous êtes le bienvenu à ces plateaux, premier.
Nous avons rendez-vous le 5.
Comme chaque année. Sylviane. Et puis signaler qu'on a deux invités tout de même de grand renom. Cette année, à Une Salle Sous les Étoiles, je vous les laisse annoncer.
Michel Azavanissus et Bérénice Bejo, sa compagne, qui est une actrice bien évidemment célèbre, qui a joué dans The Artist. Donc, elles seront tous les deux là pour parler le premier soir de The Artist. Et il y a une petite surprise par rapport au programme qui est annoncé là, c'est qu'on a eu la confirmation entre-temps de la possibilité de faire une avant-première du dernier film, qui est un film d'animation de Michel Azavanissus, qui est passé au Festival de Cannes, qui s'appelle La plus belle marchandise du monde, et qui passera le dimanche 7 juillet, donc à 14h ou à 16h,
au sémaphore. C'est puisque le Salle Sous les Étoiles, c'est en plein air à Vauban, mais il y aura des séances au sémaphore. Écoutez, je crois qu'on a assez bien survolé tout cela, hein, c'est très 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 riche. Eh bien, bon cinéma, bonne séance et à très bientôt.
Merci.